France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Louan Deniel et Loïc Antoine, sans oublier Julie Gacon que vous retrouverez demain au micro de Culture Monde. À la réalisation, c'est Margot Page et à la technique, Minetta Diawara. Patrimoine, des trésors des nations, c'est notre sujet cette semaine alors que l'UNESCO commémore les 80 ans de son existence. Lundi, Julie Gacon évoquait l'histoire mouvementée de cette vénérable institution et de son rôle dans la fabrication d'un patrimoine culturel commun. Hier, il était question du fléau des trafics de biens culturels. Demain, nous verrons comment le Bénin se réapproprie son patrimoine après la restitution des œuvres pillées par la France. Ce matin, nous serons à la fois en Égypte et dans la péninsule arabique, la nouvelle ère des grands musées.
Nous allons tous célébrer aujourd'hui ce jour d'inauguration. Cet édifice est présenté par l'Égypte comme un cadeau au monde, de la part d'un pays dont l'histoire a commencé il y a plus de 7000 ans.
Nous inaugurons ce lieu avec une nouvelle architecture et une nouvelle taille. Évidemment, il s'agit d'un lieu prestigieux qui en dit long sur l'histoire et la culture du Qatar, qui fait partie intégrante de la communauté du Golfe en général.
Ce Louvre de la lumière et du désert, c'est ce message envoyé contre tous les obscurantismes. Nos civilisations sont liées et que ceux qui veulent faire croire que l'islam se construit en détruisant les autres monothéismes sont des menteurs et vous trahissent.
L'inauguration d'un musée est désormais bien plus qu'un coup de ciseau donné dans un ruban en présence de quelques notables. En Égypte, c'est au plus haut sommet de l'État que l'ouverture du grand musée égyptien du Caire a été pensée et orchestrée le 1er novembre 2025. Une cérémonie grandiose dans un décorum imprégné de références à l'Égypte antique, à laquelle ont été conviées plusieurs têtes couronnées d'Europe, mais surtout les caméras du monde entier. En 2017, c'est le président français Emmanuel Macron qui avait fait le déplacement aux Émirats pour l'inauguration du Louvre Abu Dhabi. Avec son dôme perforé qui semble délicatement posé sur la mer, l'édifice semble vouloir impressionner le visiteur avant même qu'il n'y entre. Mais aussi spectaculaire soit-il, ce musée n'est qu'une des pièces d'un projet bien plus vaste voulu par la famille régnante. Deux autres établissements sont sur le point d'être inaugurés, le Guggenheim Abu Dhabi et le Zayed National Museum. Alors comment expliquer cette fièvre pour les politiques muséales dans le monde arabe et en particulier dans la péninsule? Quelles ambitions politiques et diplomatiques ces grands musées servent-ils? Qu'est-ce que leurs collections racontent du rapport au passé et au patrimoine et à destination de quel public? Le politologue Alexandre Cazerounier est notre invité pour en discuter. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'École normale supérieure, spécialiste du monde musulman et des politiques culturelles, le miroir des chairs, musées et politiques dans les principautés du Golfe Persique est paru aux éditions PUF, c'était en 2017, au moment d'ailleurs de l'inauguration du musée du Louvre à Abu Dhabi. Alors, pour commencer, avant d'entrer dans ces musées, Alexandre Cazerounier, parlons justement de ces bâtiments, que ce soit le grand musée égyptien du Caire qui vient d'ouvrir ou du Louvre à Abu Dhabi. Ces musées dont on parle sont avant tout des bâtiments immenses dont les architectures rivalisent d'ingéniosité. Quelle est l'importance de la dimension architecturale dans ces projets de grands musées nationaux?
Elle est immense. Et d'ailleurs, la manière dont Abu Dhabi a rendu public ses projets de musée en 2006 a consisté à les présenter en lien avec les architectes choisis, qui n'ont pas d'ailleurs fait l'objet de concours. Donc il a été d'abord question d'un musée d'art classique par Jean Nouvel en juin 2006, et ce n'est qu'à l'automne que le nom du Louvre a été associé au projet. alors même qu'à l'origine de ce projet, il y avait la volonté d'avoir un Louvre à Abu Dhabi et que Jean Nouvel a été recruté plus tard. Mais si vous voulez, dans la mise en récit de ces projets pour ce qui est d'Abu Dhabi, le recours à l'architecte a été fondamental. Et on peut en dire tout autant pour le Qatar, qui, avec son musée d'art islamique de Doha, a eu recours à Ayam Pei, Yeo Ming Pei. Et Yeo Ming Pei était recherché parce qu'il était l'architecte de la pyramide du Louvre. Donc la question de l'architecture, elle est très importante. Dans le cas du Grand Musée égyptien également, dans le cas du Grand Musée égyptien, nous avons en face de nous un bâtiment monumental où on retrouve d'ailleurs quelques éléments en partage avec le Louvre à Abu Dhabi. L'idée d'un toit en moucharabier qui laisse passer la lumière, un escalier en escalator qui n'est pas sans rappeler le grand escalier du Centre Pompidou. Donc l'architecture est convoquée, mais pas avec les mêmes, disons, ressorts qu'à Abu Dhabi, puisque le cabinet d'architecte qui a été choisi est beaucoup moins connu que Jean Nouvel. C'est le cabinet Hennegan Peng, donc du nom des deux fondateurs qui forment un couple, Roisin Hennegan et Shifu Peng, qui sont par ailleurs connus pour avoir également dessiné et achevé le projet du musée palestinien de Bir Zeit à côté de Ramallah.
À quels critères ces projets architecturaux doivent-ils correspondre? Vous avez évoqué l'aspect grandiose, il y a aussi la modernité de ces bâtiments. Et certains aussi ont un projet écologique qui est inscrit dans l'architecture. Comment est-ce qu'on peut essayer de définir ce qu'ils ont en commun en matière, encore une fois, architecturale?
Mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils prolongent une dynamique qui s'est cristallisée dans le projet du Guggenheim de Bilbao. 1997 est inauguré ce musée, donc cette branche du Guggenheim à Bilbao en Espagne, avec une architecture étonnante dessinée par Frank Gehry. Et donc ça a posé comme modèle pour un nouveau rapport au musée l'idée que pour dynamiser un territoire, un musée est une réponse utile, et un musée avec une architecture qui, par elle-même, en fait, produit une image qui va circuler, qui va être diffusée.
Qui est une œuvre d'art en elle-même.
Voilà, une œuvre d'art en elle-même. Donc, 97, Bilbao, c'est très important, mais ça conduit également en erreur. Parce que le musée Guggenheim à Bilbao, c'était une dynamique marchande d'un musée privé américain, le Guggenheim, qui, à l'effondrement de l'URSS, avait fait comme les multinationales américaines, avait cherché à se trouver de nouveaux marchés. Et donc, ça a conduit en France à regarder le projet Louvre Abu Dhabi, également à tort, sous l'angle d'une marchandisation de la culture. Alors que le Louvre Abu Dhabi, c'est pas du tout un projet de recherche de nouveaux marchés par le Louvre. Le Louvre n'en voulait pas de ce projet d'ailleurs. C'est le projet vient d'un prince d'Abu Dhabi qui est actuellement le ministre des Affaires étrangères, le prince Abdallah bin Zayed, et de même au Qatar. Ce n'étaient pas des entreprises européennes ou américaines qui cherchaient de nouveaux contrats en péninsule arabique. C'était la volonté de celui qui était à l'époque l'émir du Qatar, le cheikh Hamad bin Zayed, Hamad bin Khalifa, pardon.
Et puisqu'on parle du musée du Louvre à Abu Dhabi, je vous propose d'écouter l'architecte Jean Nouvel parler de la façon dont il a conçu le projet.
Ce que je voulais avant tout, c'est que ce musée ait des racines, qu'il appartienne à leur culture. Et je ne voulais pas d'un musée qu'on pourrait mettre à Paris ou à Londres ou aux États-Unis. Et je suis plutôt pour un musée qui est un quartier que qu'un bâtiment qui est un coffre-fort uniquement de protection ou de classification. Donc je suis parti dans un fragment de ville, en fait, quoi, dans un quartier.
Il fallait faire quelque chose avec les matériaux qui étaient là. Autrement dit, avec la mer, avec le sable et avec une amplitude du ciel qui était là. Il n'y avait pas beaucoup de bâtiments autour, il y a cette amplitude. Donc ce que j'ai cherché, c'est à capter tout ça.
Un musée qui ne ressemble pas à ce qu'on pourrait trouver à Londres ou à Paris, défendait Jean Nouvel. Alors, deux questions. Est-ce que Jean Nouvel, à votre avis, a tenu ce pari-là? Et puis, deuxième question, Alexandre Caserouni, On a l'impression que c'est devenu incontournable, indispensable de passer par les grands noms de l'architecture mondiale pour ces projets. Est-ce que c'est là aussi une constante de cette nouvelle dynamique, nouvelle génération des grands musées dans le monde arabe ?
Alors, grand nom, hein, comme je l'ai dit, dans le cas du grand musée égyptien, on ne peut pas considérer que le cabinet d'architecte Enegan Peng a la même notoriété que Jean Nouvel. Mais à Abu Dhabi et au Qatar, oui, ils ont sélectionné les plus grands architectes de l'époque. Donc de Hayam Pei jusqu'à Jean Nouvel. Ensuite, Jean Nouvel, sa mise en récit de son projet, c'est la contextualisation, pas seulement pour Abu Dhabi. Et donc, dans la bande-son que vous venez de diffuser, il dit qu'il souhaite, par ce projet, s'enraciner dans un contexte local. Mais quand on l'écoute, il mentionne la mer, le sable, le ciel. Il dit qu'il n'y a pas beaucoup de bâtiments autour. Or, c'est pas la géographie du site. Quand vous êtes sur le site du Louvre Abu Dhabi, quand vous regardez autour de vous, vous voyez une ville qui est une trace monumentale de l'architecture du XXe siècle. Et là, on a un effet, on a le même phénomène au Qatar. Tout comme Hayam Pei, Jean Nouvel a souhaité développer une proposition architecturale en se dissociant complètement de l'histoire, de l'expérience locale, de la modernité. Abu Dhabi, le Qatar et plus généralement hein, toutes ces villes du pourtour du Golfe Persique, en raison de la manne pétrolière disponible depuis les années 60, ont énormément construit. On fait appel aux grands architectes, aux grands urbanistes du XXe siècle. Donc il y a un énorme patrimoine en fait de la modernité architecturale.
Un patrimoine récent.
Et récent, il date des années 50, il est déjà ancien. Et les architectes qui ont été recrutés pour les projets les plus récents ont voulu s'en dissocier. Et ce faisant, ils ont participé à désertifier ce passé. Et moi, je ne peux pas considérer que Abu Dhabi, ce soit la mer, le sable et le ciel. Parce que quand on s'y rend, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Et cette désertification du paysage urbain est allée de pair avec également une mise à l'écart de la classe moyenne locale, qui est le produit de l'éducation, du développement du soin, du développement de l'État moderne des années 60 jusqu'aux années 2000.
Et comment vous expliquez ce choix architectural qui a été fait, qu'on vient d'entendre, de se baser avant tout sur des éléments naturels et non culturels ou urbanistiques locaux? Est-ce que c'est une vision très occidentale ou centrée qu'on vient d'entendre là, ou est-ce que c'était peut-être aussi une injonction faite par les commanditaires?
C'est les deux, parce que je pense qu'un architecte souhaite protéger en fait son monument d'une pollution urbaine environnante. Et c'était vraiment la volonté de ceux qui ont construit à Doha, hein, et notamment à Hayam Pei, qui a construit son musée d'art islamique sur un polder, pour éviter qu'avec les constructions qui pouvaient se développer par la suite, on ne modifie le paysage de sa proposition architecturale. Donc il y a ce premier élément, l'ego de l'architecte. Deuxième élément, il y a une volonté des dirigeants locaux de faire table rase, en fait, de ce passé qui a engendré une opposition politique. Il est faux de considérer que dans les États de la péninsule arabique, et en particulier les principautés, il n'y a pas de classe moyenne. C'est une idée très répandue. D'ailleurs, ce seraient des populations de taille réduite sans classe moyenne. Or, c'est faux. L'investissement par les familles régnantes dans le développement de l'État, de la bureaucratie ou administration, dans l'éducation, avec la manne pétrolière dans les années 60 et 70, a produit dans les années 80 une classe moyenne, c'est-à-dire un groupe social avec de l'autonomie politique. Et ce groupe social, ça a été les agents de l'État, les administrateurs de l'État, la bureaucratie nationale. Et ce qui donnait corps, si vous voulez, à leur présence sociale, c'était ces bâtiments publics. Des musées, des bibliothèques, des salles de théâtre, mais aussi les bâtiments des ministères. Et ils sont monumentaux et ils sont très présents dans ces villes de la rive sud du Golfe Persique. Et le développement de ces nouveaux espaces avec les nouvelles propositions de musées qui font appel à des architectes étrangers donne l'impression que tout ça n'a pas existé. Change complètement la représentation politique de ces territoires, de leur population et du pouvoir. Et ça, si vous voulez, ça favorise un changement du rapport de force qui a été établi dans les années 80. Dans les années 80, au Qatar, aux Émirats, au Bahreïn, au Koweït, l'État, c'est devenu la principale force d'opposition à la famille régnante. Non pas que l'État cherchait à renverser la famille régnante, mais il y avait un rapport de force. Et les nouveaux projets diffuse l'idée que toute cette catégorie sociale, toute cette expérience en fait de l'État moderne n'ont pas eu lieu et qu'ils doivent enfin advenir.
Et parce qu'il y a la crainte, que vous le disiez, que dans cet État naisse et se construise une opposition politique. Vous disiez tout à l'heure que les projets de musées tels qu'on les voit depuis 10-15 ans, ils ont pour objectif de faire table rase du passé, d'ignorer ce qui a été construit depuis les années 50-60. Or, dans votre ouvrage, vous expliquez, Alexandre Caseroni, que les premiers projets de musées au moment des indépendances, vous les appelez les musées racines. Ce sont justement, au contraire, des musées qui vont puiser dans les racines historiques, patrimoniales, locales. Est-ce que vous pouvez prendre le temps de nous expliquer ce qu'est un musée racine dans le contexte du Golfe Persique ?
Oui, vraiment à rebours de ce récit qui, par exemple, qu'a porté le Louvre, d'un Louvre des Sables, qui véhicule l'idée qu'il n'y avait pas encore de musée. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné quand j'ai commencé à me rendre aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, au Bahreïn, au Koweït, c'était de découvrir qu'ils avaient une expérience déjà très ancienne du musée et que les choses commencent dans les années 50 au Koweït et les années 70 partout ailleurs, et qu'il y a très tôt un investissement public lourd dans le développement d'un musée national dans chacun de ces États. Et ces musées suivent un modèle qui est diffusé à l'époque par l'UNESCO, qui est celui du musée national ancré dans le territoire national. Alors, les ressources dont ils vont disposer au Qatar, aux Émirats, au Bahreïn, au Koweït, ça va être d'une part l'archéologie locale, donc les fouilles archéologiques locales, et d'autre part l'ethnographie locale. Et il s'agit de quoi finalement pour ces musées ? C'est de souder ensemble les habitants de ces territoires et de consolider les frontières laissées par les Britanniques à leur départ.
Donc ça participe d'un projet de construction
d'identité nationale. Mmh. Voilà, un projet dit de construction d'une identité nationale à l'échelle du territoire. Et on prend l'état, la forme du pouvoir telle qu'elle est là, telle qu'elle existe, un État avec ses frontières, et on consolide cet ensemble avec la population qui existe. Et donc, pour développer ces projets de musée, au départ, les familles régnantes ont bénéficié de prestataires de services britanniques qui, en fait, ont structuré ces musées autour de l'idée que l'ancêtre commun des populations nationales étaient les populations bédouines, arabes, affiliées à des tribus, qui avaient eu une vie de pasteurs nomades. Donc, les musées se sont créés en créant ce roman national, en paraphrasant l'idée de nos ancêtres les Gaulois, en l'occurrence là-bas, nos ancêtres les Bédouins. Sauf qu'au départ, après avoir créé ces musées, les prestataires britanniques étant partis, la gestion de ces musées a été déléguée à des nationaux, des Qatariens, des Bahreïniens, des Koweïtiens, des Émiriens, qui ont été en charge de la gestion des musées et de leur conservation. Et dans les années 80, une décennie après avoir fondé ces musées, ces populations nationales en charge de ces musées y ont opéré un grand bouleversement de la muséographie. Ils y ont introduit les dioramas. Qu'est-ce qu'un diorama ? C'est mettre en scène des scènes de la vie quotidienne avec des mannequins. Et ces mannequins ont remis en cause le roman national que les Britanniques avaient façonné pour les familles régnantes, à savoir nos ancêtres les Bédouins. Les dioramas qui ont été créés dans les années 80 dans tous ces musées nationaux ont donné à voir une diversité des origines des habitants nationaux de ces États. Et en particulier, les origines africaines subsahariennes, d'une part, et iraniennes, d'autre part, d'un bon nombre de Qatariens, d'Émiriens, de Bahreïniens et de Koweïtiens. Donc il y a une remise en cause dans ces musées du roman national tel qu'il avait été d'abord façonné au service de la famille régnante.
Mais cette remise en cause, elle est faite par les administrateurs locaux.
Exactement, nationaux.
Mais pas forcément par les familles dirigeantes.
Pas par les familles dirigeantes. Et en fait, qu'est-ce que ça donne à voir ? C'est qu'il y a une autonomie de la bureaucratie, il y a une autonomie de l'administration publique. À partir du moment où vous développez, suivant des modèles européens, un État moderne, avec sa panoplie culturelle, des musées, une chaîne de radio nationale, vous déléguez le pouvoir. Et quand vous déléguez le pouvoir, vous faites participer beaucoup plus le reste de la population nationale, qui commence à utiliser ses possibilités pour défendre également ses intérêts. Et donc, ces musées nationaux ont eu un rôle politique majeur dans les années 80. Ils ont été les seuls endroits au Qatar et à Abu Dhabi qui ont donné une représentation de la population nationale extérieure à l'élite qui est formée de la famille régnante et des grandes tribus autour d'elle.
L'ère de ces musées racines, écrivez-vous, elle va avoir lieu entre les années 60 et les années 80. Et il y a, outre ce rapport de force que vous expliquez, il y a aussi un événement important qui va changer la donne. C'est en 1990, l'invasion du Koweït par l'Irak lors de la Seconde Guerre du Golfe. À ce moment-là, le musée national du Koweït est incendié, détruit par les troupes de Saddam Hussein. Qu'est-ce que ça va changer? En quoi cet événement va être déterminant dans la manière de concevoir le musée dans le Golfe?
Alors, ce musée national du Koweït, il avait une section sur l'archéologie locale. Il suivait ce modèle du musée Racine qu'on trouvait partout ailleurs. D'ailleurs, promouvoir le patrimoine local et à travers lui, depuis les années 80, montrer que la population nationale ne se limite pas au lignage de la famille régnante. Lorsque l'Irak envahit le Koweït en août 1990, il y a dans ce musée une grande collection d'art islamique en main privée, qui est propriété de membres de la famille régnante, qui l'a déposée dans ce musée national. D'ailleurs, ce musée national a en grande partie été reconstruit avec un architecte français, Michel Lecochard, pour servir d'écrin à cette collection privée. Et Saddam Hussein donne l'ordre que cette collection soit transportée à Bagdad, avec la collection d'antiquités. Il ne laisse dans ce musée que la production artistique contemporaine des artistes koweïtiens. Et au moment du retrait forcé des troupes irakiennes, ce musée, vidé de l'essentiel de ses collections, va être incendié. Et là, ça va donner l'idée à l'émir du Qatar de l'époque, le cheikh Hamad, de développer au Qatar un grand musée qui va se substituer à ce musée incendié au Koweït. Et c'est là que germe dans son esprit l'idée de construire au Qatar un grand musée d'art islamique. Puisque ce musée national du Koweït était devenu connu dans le reste du monde par sa collection d'art islamique, mais qui était privée. Et donc, c'est tout le déclenchement du processus de développement de grands musées au Qatar. Et c'est vraiment le Qatar qui est à l'origine de cette idée de développer des grands musées, mais aussi de faire venir des universités américaines ou alors de développer des grandes compétitions sportives internationales.
C'est en 2008 que le Qatar inaugure donc ce musée des arts islamiques à Doha qui se présente comme une référence pour une nouvelle génération de musées.
Le musée d'art islamique est à mon avis un chef-d'œuvre. Une référence qui a complètement changé notre paysage urbain. Pour la jeune génération d'architectes, c'est une véritable encyclopédie de l'architecture contemporaine. Ils peuvent s'en inspirer et, nous l'espérons, développer une architecture qatari encore plus moderne.
Il existe un lien entre tout ce sur quoi nous travaillons, notamment pour bâtir un écosystème créatif et culturel dynamique. L'impact est donc bien réel et ne cesse de croître. Et nous continuons d'avancer.
L'architecte Ibrahim Jaïda et la Chera Rim Altani, directrice des expositions du musée des arts islamiques de Doha, qui était interrogée par CNN en 2024. Qu'est-ce que ce musée des arts islamiques de Doha a de différent? En quoi marque-t-il une rupture dans les politiques culturelles?
La rupture principale que porte ce musée et que vont porter à sa suite les musées d'Abu Dhabi, c'est que le projet du musée va se faire à part de l'administration publique nationale, à part de l'État. Les ministères en charge des affaires culturelles vont être complètement dissociés de ces nouveaux projets culturels.
Et écartés.
Écartés. Et à la place, en fait, des ressources humaines nationales, on va avoir des prestataires de services étrangers. Au Qatar, beaucoup sont américains. Et à Abu Dhabi, il va y avoir des Américains, mais aussi des Français et des Britanniques. C'est ça le grand changement, en fait, si on veut comprendre la portée politique de ces projets de musée. C'est que en interne, ils vont substituer à la population nationale des prestataires de services étrangers, pour l'essentiel liés à ces trois États. Et ces trois États, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, sont ceux qui ont libéré le Koweït de l'occupation irakienne en 1991. Et ces nouveaux projets de musée, mais aussi les projets sportifs, les projets académiques, vont être des moyens pour les familles régnantes locales de distribuer des contrats de prestations de services aux élites de ces trois États, qui, en fait, depuis la guerre du Golfe de 91, se sont vus déléguer de plus en plus la défense de ces territoires. Donc, si vous voulez, à la volonté des années 50 aux années 90 de faire société, de créer un bloc identitaire entre la famille régnante, le reste de la population, et de légitimer les frontières laissées plus ou moins arbitrairement par les Britanniques, va se substituer une nouvelle configuration, qui est d'utiliser le musée pour faire société entre les familles régnantes et les élites sociales françaises, britanniques et américaines.
Et comment cette stratégie se matérialise en termes de contenu? Que contiennent ces musées? J'imagine que ce n'est plus la valorisation de la culture bédouine ou de la culture de la perle, comme c'était le cas dans les musées racines. Oui, oui. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ces nouveaux musées que vous appelez les musées miroirs?
Changement radical. Dans les musées nationaux, dans les années 80, la problématique majeure, c'était qui est national? Qui est légitime en tant que Qatarien? Est-ce qu'il faut avoir un lignage tribal ou est-ce que ceux qui sont arrivés par voie maritime d'Afrique subsaharienne ou de la rive opposée, Iran et Pakistan, sont également légitimes? C'est ça dont traitent ces musées nationaux dans les années 80, quand on regarde de près la muséographie. Avec les nouveaux musées, on va avoir comme thématique centrale toutes les valeurs culturelles du moment dans les régimes démocratiques français, britanniques et américains, à savoir les relations entre religions musulmanes, juives et chrétiennes. D'autre part, la question de la place des femmes. Donc en fait, ces musées vont beaucoup se faire l'écho des problématiques du moment en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Donc les récits postcoloniaux, les études de genre vont être placés au cœur en fait des problématiques dont traitent ces muséographies.
D'ailleurs,
la diversité, voyez, la question de la diversité.
Justement, j'allais dire le musée des arts islamiques. On peut noter que dans le récit qui en est proposé, que c'est davantage un regard sur l'islam comme civilisation et non plus seulement comme religion. C'est ça qui est présenté en 2008.
Et puis surtout, l'art islamique était quasiment absent de ces musées nationaux auparavant, parce que l'art islamique n'est pas l'art du monde islamique. C'est un art qui a été pour l'essentiel produit en Andalousie, en Égypte, en Palestine, Jordanie, Syrie, Irak, Iran, Turquie, et puis en Inde du Nord. La part de la péninsule arabique dans la production de cette catégorie d'objets est infime. Et donc, dans les années 60, 70, 80, le Qatar, le Bahreïn, le Koweït ou les Émirats ne cherchaient pas du tout à valoriser cette production matérielle qui vient de ses grands voisins qui menaçaient leur existence. Ils ne cherchaient pas du tout à mettre dans leur musée la production matérielle de l'Égypte, de l'Irak ou de l'Iran. Ça ne les intéressait pas du tout, ni du Yémen. Ce qu'ils voulaient, c'était légitimer leur existence, donc mettre en valeur leur particularisme culturel à eux. Et le développement de l'art islamique comme catégorie d'objet dans les musées en péninsule arabique, ça va pleinement de pair avec cet effet miroir, avec la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, où l'art islamique est considéré comme l'art de l'ensemble du monde islamique, ce qui n'est pas vrai.
Au-delà de cet objectif diplomatique de resserrer les liens entre une élite dirigeante dans les pays du Golfe et les pays occidentaux, est-ce qu'il y a aussi un enjeu de changer l'image qui est associée aux pays du Golfe qui pendant longtemps, alors il y a eu l'image de la guerre avec les différentes guerres du Golfe, mais l'image principale qui est associée à ces pays, c'est celle de la ressource en hydrocarbures, des pays qu'on appelle souvent des pétromonarchies qui sont associés au gaz, au pétrole, etc. Donc, quelle est la place de cette importance de changer l'image, d'exister autrement sur la scène internationale que par les hydrocarbures?
On peut parler des hydrocarbures, on peut aussi parler de la question de l'islamisme, donner un autre visage à des États du monde islamique. Mais le point essentiel dans le changement de la représentation, c'est justement que ces territoires ne soient pas représentés par qui que ce soit d'autre que la faction princière la plus puissante. Alors que dans les années 80, nous étions dans une dynamique de partage de la représentation. La représentation politique de ces territoires, ce n'était pas seulement la famille régnante. C'était aussi des artistes, des archéologues, des metteurs en scène, qatariens, émiriens, bahreïniens, koweïtiens, qui n'étaient pas issus de cette élite sociale. Or, depuis le développement de ces projets de musée, on voit très nettement un resserrement de la représentation sur les membres de très haut rang des familles régnantes. Par exemple, les responsables de ces musées ne sont plus des personnes issues de ce que, dans mon livre, j'appelle le petit peuple des ports, c'est-à-dire les descendants de pêcheurs, d'artisans. Ce sont vraiment des personnes de très haut rang des familles régnantes. Et ça, c'est une révolution, vous voyez, de la représentation. Aujourd'hui, ceux qui monopolisent les niches de représentation du territoire national, de la population et de l'État vis-à-vis de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni, ces trois pays clés, puisque c'est eux qui défendent ces territoires, qui en assurent finalement la protection militaire, ce sont uniquement des membres des familles régnantes. Or, dans les années 80, ce n'était pas du tout la dynamique en marche.
Et on écoute justement la Chéra Almayassa bint Al Thani au Qatar.
Le Qatar possède certaines des perles les plus importantes. Elles ont été utilisées pour concevoir des diadèmes européens, comme vous pouvez le voir dans les galeries, ainsi qu'un tapis provenant du Maharaja de Baroda qui devait être offert en cadeau pour recouvrir la tombe du prophète Mahomet. Le Qatar est donc toujours en dialogue avec le reste du monde et je ne crois pas à l'importation d'une culture quelconque. Je pense que les cultures sont toujours en dialogue et échangent des connaissances entre l'Orient et l'Occident. On peut même dire entre le Nord et le Sud.
Cette question du dialogue des cultures, de l'universalisme, il est omniprésent dans la promotion qui est faite des musées, que ce soit au Qatar, là, par la Chéra Almayassa bint Al Thani, qui en est la directrice du musée national, ou que ce soit aussi à Abu Dhabi, quand il a été inauguré en 2017. Comment est-ce que vous observez ça, et quelle définition de l'universalisme contiennent ces musées dans ce contexte ?
C'est la reprise, si vous voulez, des éléments de récit qui font sens en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et le cas de l'universalisme est tout à fait exemplaire. Lorsque, à Abu Dhabi, le Cheikh Abdallah bin Zayed, actuellement ministre des Affaires étrangères, qui à l'époque était ministre, jeune ministre de la Culture, a eu l'idée d'un Louvre à Abu Dhabi. On est vers 2004-2005. Donc, lui, sa demande, qui est transmise au Louvre d'abord, c'est un Classical Art Museum, un musée d'art classique pour Abu Dhabi avec le Louvre. La catégorie musée d'art classique, vous voyez, ne fait pas sens en France. Henri Loiret, président du Louvre, n'accepte pas la demande parce qu'à l'époque, pour développer les arts de l'islam, son idée, c'est de se rapprocher du Qatar. Et il s'est dit, si le Louvre veut traiter avec le Qatar, il ne peut pas en même temps se rapprocher d'Abu Dhabi. Donc, il y a un refus du Louvre et les Émiriens vont revenir à la charge via le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture, puis l'Élysée. Et c'est Jacques Chirac qui va contraindre Henri Loiret d'accepter ce projet. Une fois que ce projet est là, Henri Loiret va s'en saisir, se l'approprier, et c'est lui qui va avoir l'idée du concept d'universalisme. Le concept vient de la présidence du Louvre. Et Henri Loiret, dans ses prises de parole publiques, à l'auditorium du Louvre, disait que ce Louvre à Abu Dhabi ne devait pas faire du Louvre une marque, mais diffuser les promesses de la Révolution et de l'Empire. Et donc là, on est dans l'idée que cet universalisme, c'est l'universalisme des Lumières. Mais il y a une autre compréhension de ce concept, de sa motivation. En 2002, en réponse aux demandes de restitution d'œuvres d'art qui devenaient de plus en plus pressantes...
On en parlera dans l'épisode de demain.
18 musées donc européens, américains et aussi l'Ermitage en Russie ont signé un document qui est la Déclaration sur la valeur et l'importance des musées universels. Et ce document, qui n'a aucun fondement juridique dans le droit international ni dans le droit d'aucun pays, était la réponse de ces musées aux demandes de restitution. Et dans cette déclaration, le sens donné à universel, c'est que Les musées en question, comme le Louvre, le British Museum ou l'Ermitage, n'ont pas à restituer ces objets, puisque ces objets sont le patrimoine mondial de l'humanité. Ils appartiennent à tout le monde. Et ces États sont les gardiens, simplement, de ces objets. Et donc, avec le projet Louvre Abu Dhabi, il s'est offert une opportunité aux frais d'Abu Dhabi pour le Louvre, c'était d'institutionnaliser pour la première fois cette réponse aux demandes de restitution. Et qui plus est, à Abu Dhabi, aux Émirats, entre l'Égypte, l'Iran, l'Irak, qui ont été des États qui ont énormément fait l'objet de fouilles. Enfin, pour l'Iran surtout et l'Égypte. Et qui sont des pays qui ont participé, hein, si vous voulez, à l'histoire des demandes de restitution, surtout l'Égypte.
Donc si on comprend bien, le projet du Louvre à Abu Dhabi avec cette étiquette d'universalité participe aussi d'une stratégie très, très contemporaine d'essayer de couper l'herbe sous le pied de ceux qui demandaient la restitution des œuvres d'art pillées dans un contexte colonial.
Pillées ou achetées, si vous voulez. Mais ça, c'était l'époque. Depuis la déclaration de Ouagadougou du président actuel, hein, Emmanuel Macron, on est passé à tout à fait autre chose. Mais le Louvre, dans les années 2000, était opposé aux demandes de restitution.
Et sur la deuxième conception de l'universalité dont vous parliez, c'est-à-dire cette idée que l'art, que la culture, dans le contexte français post-Empire, Révolution française, doit servir à un projet émancipateur et en vue des libertés publiques, de l'état de droit, etc. Est-ce que cette idée-là a aussi infusé dans le projet du Louvre à Abu Dhabi? Je vous pose la question parce que dans votre ouvrage, vous dites au contraire que ce projet participe d'un renforcement de l'autoritarisme des Émirats.
Alors, moi, mon argument pour dire que ça renforce l'autoritarisme, c'est parce que ces projets dessaisissent la population nationale, celle qui est fonctionnarisée, comme je dis, celle qui est employée par l'État, de la mise en œuvre de ses dépenses publiques et de la mise en œuvre de ses politiques publiques. Et c'était le mode majeur de participation politique dans des États où il n'y a pas d'élection. Vous voyez, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Le mode majeur de participation politique, c'était d'administrer les politiques publiques. Et à partir du moment où ces projets et un tas d'autres projets de même fabrique, hein, dans les autres secteurs de l'État, retirent à la population nationale l'administration du pouvoir pour la donner à des prestataires de services étrangers, qui s'avèrent être beaucoup plus obéissants parce qu'ils sont beaucoup plus fragiles socialement au niveau local, il y a concentration du pouvoir. Et donc, le régime autoritaire devient plus autoritaire. Donc c'est ça mon argument pour dire que le Louvre à Abu Dhabi et les musées de même fabrique, et les projets sportifs, la Sorbonne, NYU, participent d'une concentration du pouvoir. C'est ce dessaisissement de la population nationale de l'administration du pouvoir. C'est là qu'est en fait mon argument pour dire qu'il y a une concentration du pouvoir. Ensuite, quand Henri Loiret défendait son projet d'universalisme jusqu'aux années 2010, il disait de manière très audible que pour lui, c'était l'universalisme des Lumières. Mais à partir des révolutions arabes, en 2011, il y a eu un changement du récit côté équipe du Louvre. Et l'idée d'avoir un universalisme qui est celui des Lumières, c'est-à-dire diffuser depuis Paris l'idée de la liberté partout dans le monde, a laissé place à une autre compréhension de l'universalisme qui en fait fait musée, c'est celle qu'on voit aujourd'hui au Louvre à Abu Dhabi, qui est que ce qui est universel, ce ne sont pas les idées des Lumières, mais l'homme. L'homme de la préhistoire à nos jours, de la Chine aux Amériques. Et c'est cette compréhension très anthropologique de l'universel qui est aussi celle défendue par les post-colonial studies, qui sont très critiques des Lumières et de ce qui s'est passé avec la Révolution française. Donc on est passé d'une compréhension, disons, philosophique de l'universalisme à une compréhension anthropologique, au bénéfice des post-colonial studies, à l'initiative de l'équipe des conservateurs français de l'Agence France Muséum.
Vous écoutez Culture Monde, troisième épisode de notre série consacrée au patrimoine, à ses enjeux politiques, géopolitiques et culturels. Dans un instant, après la musique, on évoque un véritable trésor, le trousseau funéraire de Toutankhamon.
نقط حنين بيلفوا فوق البنجشاش ويغلفوا القلب اللي باش صبر وروتين المجد للي بيقدروا
حتى جوه القلب بينقط حنين بيلفوا فوق البنجشاش ويغلفوا القلب اللي باش صبر ومتين المجد للي الحب غاية في عرفهم عكس الخلايق كلهم واخدين وشرع ودين والمجد للي الحمل مال على كتفهم شايلين هموم فوق همهم بيسندوا الباقيين
La chanteuse égyptienne Dina El Wedidi qui interprète ici El Magd, un titre qui signifie la gloire, issu de son EP Five Seasons sorti en 2023. La gloire, l'égyptologue anglais Howard Carter l'a rencontré un jour de novembre 1922 lorsqu'il découvrit dans la vallée des rois la tombe du pharaon Toutankhamon.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Plus de 5000 artefacts seront réunis sous un même toit, chacun racontant une histoire différente du pharaon. Ce n'est pas seulement le roi d'or et le masque extraordinaire et impressionnant. Non, nous allons essayer de changer de sujet pour inciter les gens à en apprendre davantage sur Toutankhamon. Par exemple, la découverte de sa tombe, mais aussi sa vie quotidienne, afin de le présenter en tant qu'être humain.
La directrice du centre éducatif du Grand Musée égyptien du Caire, Jihan Nabil, qui présentait au micro de France 24 ce qui constitue la pièce maîtresse du nouveau musée, le trousseau funéraire de Toutankhamon. C'est en novembre 1922 que la tombe fut découverte par l'archéologue britannique Howard Carter et elle se retrouva dès le départ au cœur du bras de fer entre l'Égypte et les Européens sur la question du patrimoine. Bonjour Carole Jarsaillon.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes doctorante en histoire de l'égyptologie à l'École pratique des hautes études et attachée temporaire de recherche à la chaire d'égyptologie du Collège de France. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que les visiteurs vont pouvoir découvrir dans ces salles dédiées à Toutankhamon ? De quoi est constitué ce fameux trousseau funéraire ?
Oui, tout à fait. La présentation du mobilier funéraire de Toutankhamon, ça va représenter un véritable musée dans le musée, avec un certain nombre de salles. C'est un véritable parcours qui peut prendre déjà un certain temps à visiter, puisque, comme on a entendu, en fait, il y a plus de 5000 pièces dans ce trousseau funéraire. Et si les objets phares ont été présentés dès leur découverte en 1922, comme le masque, comme les sarcophages en or massif, ici, on a vraiment une présentation exhaustive de ce trousseau funéraire qui implique des objets extrêmement variés, qui va de la vie quotidienne du pharaon jusqu'à des choses plus religieuses.
C'est la première fois que l'ensemble du trousseau et de tous les objets funéraires sont présentés de manière exhaustive.
Exactement, c'est le côté exhaustif ici qui est assez notable, puisque jusqu'à présent on n'avait que les objets phares. Donc là, ça s'adresse à la fois au grand public qui va pouvoir effectivement, comme on le disait, découvrir l'intégralité des objets, mais aussi aux égyptologues, et dans une présentation qui effectivement amène jusqu'à la pièce phare qui est le masque, bien sûr, mais pas seulement, et notamment on a entendu, on mentionne également la découverte qui elle-même, on connaît tous la portée scientifique et l'intérêt, la valeur artistique des objets de Toutankhamon, mais peut-être qu'il y a des histoires un petit peu moins connues qui vont être possibles de présenter dans ce contexte-là.
La tombe de Toutankhamon est découverte, on le disait, par les Britanniques en 1922. La date est importante puisqu'on est quelques mois à peine après l'accession de l'Égypte à l'indépendance. Comment est-ce que la question de la propriété de ces objets se pose à ce moment-là ?
Exactement. Alors, comme vous l'évoquiez, la date elle-même suffit à comprendre la difficulté de la découverte d'un point de vue politique. Quelques mois après la déclaration d'indépendance, après 3 ans de lutte coloniale entre l'Empire britannique et l'Égypte, l'Égypte et c'est un archéologue britannique, Howard Carter, qui découvre ce trésor absolument incroyable. Alors, dès le départ, ça va poser plusieurs problèmes de propriété et la première, c'est surtout la propriété de l'information avant celle des objets. Puisque Howard Carter était donc financé par son mécène Lord Carnarvon qui, dès le début de la découverte, crée une espèce de contrat avec le magazine The Times, qui était un magazine donc britannique, un contrat d'exclusivité pour leur accorder l'exclusivité des informations, ce qui signifie bien entendu que les Égyptiens sur leur propre sol ne pouvaient être finalement passés second dans l'accès aux informations sur ce qui se passait dans la tombe, dans la vallée des rois.
Et donc par ailleurs, ils monétisent.
Ils monétisent, bien sûr.
Avant même de commencer à sortir les œuvres, oui. Il y a déjà une entreprise marchande qui se joue sur l'information.
Absolument, et c'est la première fois. C'est-à-dire que c'est une découverte d'une telle ampleur que finalement, on ne sait pas vraiment encore comment le gérer. Et d'ailleurs, le service des antiquités égyptiennes, qui était donc le département du gouvernement égyptien qui gérait les fouilles en Égypte, est finalement un peu perdu sur la façon de gérer cet accès à l'information, cet accès à la tombe également, puisque c'est l'accès des visiteurs à la tombe qui va aussi finir par faire exploser les tensions entre le gouvernement égyptien et l'archéologue Howard Carter.
Cette médiatisation, elle fait prendre conscience aussi aux Égyptiens de l'importance scientifique de la découverte qui vient d'être faite. Comment est-ce que l'Égypte bataille pour obtenir, on parlait de la propriété, pour obtenir finalement de conserver toutes ces fouilles qui ont été faites par les Britanniques?
Oui, c'est le troisième aspect sur la bataille sur la propriété, c'est bien sûr la propriété des objets. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on est non seulement au moment de l'indépendance, mais on est aussi un mois après l'annonce publique que le système de partage des objets issus des fouilles, qui jusqu'à ce moment-là fonctionnait sur un système de 50-50, partage par moitié, une moitié des objets découverts restaient en Égypte et l'autre moitié était donnée aux fouilleurs en rétribution de leur implication scientifique et financière. Juste un mois avant la découverte, en octobre 1922, Pierre Lacot, le directeur du service des antiquités égyptiennes, annonce qu'il met fin à ce système de partage par moitié afin de rendre à l'Égypte sa liberté de choisir les objets qu'il donnait ou non aux fouilleurs. Évidemment, la découverte de la tombe seulement un mois plus tard met le feu aux poudres, si je puis dire, sur cette décision qui était déjà très mal reçue par les archéologues occidentaux, européens, notamment anglais et américains, et va venir donner des arguments supplémentaires à ceux qui s'y opposaient. En réalité, le cas de Toutankhamon et du contrat de fouille qui unissait Howard Carter au service des antiquités égyptiennes est un peu particulier, puisque son contrat précisait déjà, contrat qui avait été fait en 1915 en réalité, il précisait déjà qu'il y aurait des conditions de partage spécifiques. Pourquoi ? Parce qu'il fouillait dans la Vallée des Rois, qui était donc un lieu dont on connaissait la valeur historique et scientifique où étaient enterrés les pharaons du Nouvel Empire. Et donc, par précaution, le service des Antiquités avait déjà mentionné que le partage ne se ferait pas par moitié, mais dépendrait tout simplement, alors, tout d'abord du fait que s'il découvrait une tombe inviolée ou non, intacte ou non, et que dans le cas d'une tombe inviolée, eh bien l'intégralité des objets resterait en Égypte.
Le trésor de Toutankhamon reste donc propriété de l'Égypte malgré sa découverte par les Britanniques. Comment est-ce que les autorités égyptiennes vont dans les années suivantes et jusqu'à Nasser utiliser cette découverte spectaculaire qui a un impact énorme sur l'opinion publique mondiale et égyptienne dans la construction de l'identité nationale à ce moment-là? Quel va être le rôle de ce trésor en particulier?
Alors, ce trésor joue en particulier un rôle en 1922, au moment de l'indépendance, dans les discours indépendantistes et nationalistes. C'est d'abord là, vraiment, qu'il va puiser toute son importance, puisqu'on est en plein dans un mouvement qu'on appelle le pharaonisme, c'est-à-dire une sorte d'appropriation de l'époque, de son passé pharaonique par l'Égypte pour construire son identité à une période où, justement, au moment de son indépendance, ils sont en train de se construire en tant que nation, en tant que monarchie parlementaire. Donc c'est déjà dans ces discours-là que va se créer cette espèce d'identification. On parlait tout à l'heure de fameux nos ancêtres les Gaulois. C'est à peu près la même idée, hein, nos ancêtres les pharaons, de s'inscrire dans une lignée puissante. Et étonnamment, c'est quelque chose qui ne va pas rester longtemps. Dès les années 30, le pharaonisme a tendance à s'épuiser un petit peu et progressivement, on va plutôt se diriger vers justement le patrimoine de l'art islamique qui est vers, quand on arrive à Nasser, au panarabisme. Et donc, l'Égypte s'associe au fur et à mesure plus à d'autres aspects de son histoire. Elle est au carrefour de plusieurs périodes importantes, mais aussi géographiquement, elle est au carrefour de plusieurs mondes, le monde méditerranéen, le monde oriental. Et donc, selon les périodes politiques, elle va s'identifier plus ou moins à certaines périodes de son histoire.
Je vois Alexandre Caseroni vous écouter attentivement. Vous vouliez réagir peut-être ?
Oui, ajouter un point qui va dans ce sens. Il y a une chercheuse libanaise, Marlène Nasr, qui dans les années 80 a fait un travail remarquable d'étude de l'ensemble des discours de Nasser. Elle tombe sur un constat saisissant. Nasser ne fait pratiquement jamais référence au pharaon et à l'Égypte pharaonique. Ça ne l'intéresse pas, parce que Nasser a un projet impérial. Et il veut surtout pas tomber dans le piège de l'ancrage dans le territoire national de l'Égypte.
Imprégné aussi de panarabisme. Dernière question, Carole Jarsaillon. On a vu lors de l'inauguration du grand musée égyptien du Caire, les dirigeants ont insisté sur le fait que ce musée va aussi être doté d'un laboratoire scientifique de conservation avec cette idée de ramener l'égyptologie en Égypte. Qu'est-ce que ça dit de la continuation d'un projet national qui s'appuie sur l'Égypte antique ?
Oui, tout à fait. Il y a un vrai projet de réappropriation de son passé, et notamment parce que l'histoire de l'égyptologie est une histoire qui est finalement très occidentale. Donc, on a une vraie volonté de, effectivement, ramener l'égyptologie sur le territoire égyptien par des Égyptiens et qui s'inscrit dans une tentative plutôt de collaboration. On a eu cette idée de l'Égypte qui fait ce cadeau au monde avec ce musée, et c'est aussi elle veut faire un cadeau à la communauté scientifique aussi dans une certaine mesure. Avec ce laboratoire.
Je refais aussi un lien avec les musées du Golfe et d'Abu Dhabi en particulier, dont on parlait en première partie. Dans les collections de ces nouveaux musées, on trouve des œuvres qui viennent de l'Égypte. Alexandre Caseroni.
Oui, puisque le projet du Louvre Abu Dhabi, c'est une histoire universelle. Donc, évidemment, il ne peut pas faire l'impasse sur l'Égypte. Et ils avaient d'ailleurs acquis un très beau sarcophage qui s'est avéré être un objet volé, et ça a provoqué tous ces problèmes et ces démissions dans les anciennes équipes du Louvre à Abu Dhabi.
On sait si ce sarcophage est revenu au Caire ?
Je ne sais pas.
On va se renseigner. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Carole Jarsaillon, je rappelle, doctorante en histoire de l'égyptologie à l'École pratique des hautes études, attachée temporaire de recherche sur la chaire égyptologie du Collège de France. Merci pour cet éclairage sur le trésor, le trousseau de Toutankhamon. Merci beaucoup Alexandre Caseroni, maître de conférence en sciences politiques à l'École normale supérieure, spécialiste du monde musulman et des politiques culturelles. Votre ouvrage, dont un lien de référence sera fait sur le site de l'émission, c'est Le miroir des chairs, musées et politiques dans les principautés du Golfe, paru aux éditions PUF, et tout de suite la revue de presse internationale. Présentée aujourd'hui par Mathilde Romagnan. Et Mathilde, malgré un léger repli, l'or reste une valeur refuge et certains pays veulent garder leur part du gâteau.
À commencer par la Guinée et la Côte d'Ivoire, explique le mensuel Jeune Afrique. Conakry et Abidjan commencent à s'imposer comme des acteurs incontournables du secteur en Afrique de l'Ouest. Ils tentent de rattraper le Mali et le Burkina Faso, deuxième et troisième producteurs africains. Le premier, c'est le Ghana, plus de 82 tonnes d'or produites cette année. La concurrence est rude, souligne Jeune Afrique. Mais la Guinée et la Côte d'Ivoire sont capables à terme de se hisser sur le podium africain avec la découverte récente de nouveaux gisements dans les deux pays qui font venir des investisseurs canadiens, chinois, australiens. La Côte d'Ivoire reste peu explorée, explique Jeune Afrique. Le potentiel est donc immense, selon les spécialistes. D'autant que ces investisseurs privés mastodontes du secteur commencent à se détourner du Mali et du Burkina Faso, où les juntes au pouvoir ont adopté de nouveaux codes miniers plus avantageux pour leurs états où l'insécurité augmente.
Mais jusqu'où ira la course frénétique alors ?
C'est la question que se pose le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui interroge plusieurs économistes et spécialistes. Cette course, en tout cas, n'est pas terminée, disent-ils, même si l'or a opéré un léger repli. Son prix a chuté temporairement à moins de 400 dollars l'once, même si sa bulle est en train de se dégonfler lentement. Il reste une valeur refuge, une couverture contre les risques géopolitiques, d'autant que les investisseurs ont commencé à remettre en question la sécurité des obligations d'État, jusqu'alors considérées comme sûr, explique le quotidien allemand. La banque d'investissement américaine Goldman Sachs prévoit un cours à 4900 dollars l'once à la fin de l'année 2026. Mais au-delà de ces enjeux financiers et de la richesse qu'elle crée, l'extraction de l'or n'est pas sans conséquences. Sociales d'abord, car comme le dit Jeune Afrique, si les investisseurs privés s'intéressent autant à la Guinée et à la Côte d'Ivoire, c'est aussi pour le coût de la main-d'œuvre compétitif, un euphémisme pour dire pas cher. Et comment ne pas aborder les conséquences environnementales? Le mercure utilisé pour agglomérer les paillettes d'or, les tonnes de terre soulevées, creusées pour obtenir un seul gramme de ce précieux métal. En cette semaine de COP30 sur le climat, la question qu'on devrait se poser est plutôt, la ruée vers l'or peut-elle se faire à n'importe quel prix?
Et suite de votre revue de presse, Mathilde, plusieurs quotidiens européens évoquent la mort des jumelles Kessler qui ont eu recours au suicide assister.
Alice et Hélène Kessler avaient 89 ans, deux sœurs allemandes devenues stars de la chanson dans les années 50 et 60 grâce à leur voix et à leur gémellité. Deux blondes qui, dans cet ensemble parfaitement synchrone, est chantée dans plusieurs langues. En allemand, on l'entend, en français aussi, anglais, italien. Elles n'ont pas choisi de naître ensemble le 20 août 1936 à Nerchau, mais elles ont choisi de mourir ensemble le 17 novembre 2025 dans leur maison près de Munich. The Guardian rappelle leur impressionnant CV. Elles commencent à 15 ans, se produisent au Lido, à Paris, à la fin des années 50, rencontrent Elvis Presley en 59, puis Don Lurio, un chorégraphe américano-italien qui propulse leur carrière en Italie où elles sont surnommées les jambes de la nation, la gambe della nazione.
Forse tu mi bacerai, ogni istante attenderò, fino a quando.
En Italie, le succès est au rendez-vous malgré une époque de morale conservatrice rigide, souligne le quotidien britannique. Après l'annonce de leur mort, le Corriere della Sera a republié l'interview que les sœurs Kessler lui ont accordée l'an dernier. L'idée que l'une puisse partir avant l'autre est très difficile à supporter, ont-elles déclaré au quotidien italien. Elles ont rappelé leur indépendance, elles qui n'ont jamais voulu dépendre d'aucun homme, selon leurs mots, féministes sans même y penser, ont-elles ajouté. Mais peut-être qu'au final, nous sommes devenues un peu dépendantes l'une de l'autre. À 89 ans, elles avaient des problèmes cardiaques, mais aucun de santé mentale. Membres de l'association d'aide au suicide Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben, Alice et Hélène Kessler ont donc décidé de mourir ensemble en présence d'un médecin et d'un avocat. En Allemagne, l'euthanasie active est interdite, mais toute personne a le droit de décider librement de sa mort à condition d'absorber elle-même le produit létal, explique le Guardian. J'ajoute que si vous avez une question sur cette revue de presse, sur un sujet d'actualité internationale, n'hésitez pas à nous écrire fcrdpi@radiofrance.com. Un ou une spécialiste vous répondra dans la revue de presse interactive du samedi.
Merci beaucoup Mathilde Romagnan. On vous retrouve demain pour la revue de presse dans la matinale de Guillaume Herner. Et demain dans Culture Monde, c'est Julie Gacon que vous retrouvez pour le dernier épisode de notre série sur le patrimoine trésor des nations. Nous serons au Bénin pour comprendre comment le pays se réapproprie son patrimoine après le retour des œuvres pillées. Et dans un instant, les Midi de Culture par Marie Laborie.